La page Facebook Papa en colère entraide est à la fois un espace de témoignage, d'information et de soutien. Elle a pour but d'aider les pères confrontés à l'éloignement de leur enfant après une séparation en leur offrant une communauté bienveillante, des ressources juridiques accessibles et un lieu pour partager leur vécu. Portée par l'expérience personnelle de son créateur, la page milite aussi pour une réforme du droit familial et une réelle égalité parentale. Tout de suite, voici l'interview de Fabrice Zoudiou de Papa en colère entraide. Eh bien bonjour Fabrice, est-ce que pour commencer tu peux nous présenter brièvement l'histoire et les objectifs du groupe Facebook Papa en colère?
Alors, il faudra effectivement rajouter Papa en colère entraide. C'est très important puisqu'en fait c'est le nouveau groupe qui s'est formé récemment. Sur le groupe Papa en colère, il y avait 22 000 membres qui s'étaient regroupés. Et ce groupe-là, et il y a eu des petites incompréhension avec les administrateurs, les groupes, le propriétaire du groupe, et une grosse partie des administrateurs a décidé de partir puisque ça ne correspondait plus aux attentes que nous pouvions voir en tant qu'administrateurs sur le groupe. Voilà, donc on a décidé de faire scission et de créer le groupe Papa en colère entraide, qui reprend exactement le même principe, sauf que c'est un groupe privé, donc plus sécuritaire, puisque les propos qui sont tenus sont cadrés et ne peuvent être vus que par les membres du groupe Papa en colère entraide. Donc ce groupe, il a été créé il y a déjà un peu pas mal de temps. C'était lors de la marche des pères avec Damien Meurant, qui était remonté du sud de la France jusqu'à Lyon. Et voilà, et donc ils ont décidé de faire un groupe d'entraide pour que les gens puissent s'exprimer et de trouver des solutions à leur situation.
Et comment vous accompagnez concrètement les pères en situation de séparation ou de divorce?
Alors, comment on les accompagne? Eh bien, déjà, la première des choses, il faut que les personnes se fassent connaître sur le groupe. Donc, généralement, elles viennent poster, raconter leurs histoires. En tant qu'administrateur, donc déjà, nous, on valide ces histoires parce qu'on fait quand même attention à ce qui est écrit et on a une charte de bonne conduite, on va dire. Et ensuite, on essaie d'apporter, avec toute l'expérience qu'on peut avoir depuis plusieurs années, les regards qu'on a sur les décisions de justice, on essaye de leur apporter une vision, peut-être un éclairage par rapport à cette noirceur qui les entoure, et on arrive généralement à les sortir de leur situation. Mais les gens qui arrivent sur ce groupe Papa en colère sont déjà Papa en colère entraide, sont déjà des gens qui ont déjà des dossiers qui sont assez lourds et qui ont déjà un passif. Donc c'est parfois très difficile de pouvoir reprendre tout ce passif, de pouvoir le traiter et d'avancer avec avec de nouveaux éléments et un nouveau regard, parce que le boulet qu'ils traînent est parfois très très lourd et très très compliqué à enlever.
Et quels sont les défis les plus fréquents que rencontrés par les membres que vous soutenez?
Les défis, c'est la rupture du lien. Hein. Généralement, Papa en colère entraide. Comme son nom l'indique, la plupart des personnes sont des pères. On a aussi des mères, hein, qui sont sur le groupe. Mais quand on connaît la proportion des séparations et où sont mis les enfants lors des décisions de justice, on s'aperçoit que ce sont donc les pères qui sont les plus touchés par la rupture du lien. Et donc, plus gros défi, c'est de pouvoir faire rétablir ces liens, de pouvoir sortir les pères d'une résidence d'un week-end sur deux, la moitié des vacances, aller passer en résidence alternée quand c'est possible, et puis s'assurer que ces personnes aillent bien psychologiquement, parce que ça, c'est aussi un des gros défis du groupe, parce qu'on s'aperçoit que lors des séparations, les personnes sont très très impactées psychologiquement et ne vont pas bien du tout. Donc on a aussi cet apport-là psychologique et ce soutien psychologique en lien avec des professionnels de santé que l'on peut chez qui on peut aller frapper pour que les personnes soient aidées.
Est-ce que vous collaborez avec d'autres groupes ou institutions pour promouvoir l'égalité parentale?
Le groupe Facebook, c'est un conglomérat, je dirais, de plusieurs associations. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce groupe. Il y a les administrateurs, mais on n'est pas une association, donc on a plusieurs axes et plusieurs associations qui sont regroupées à l'intérieur de cette page Facebook. Il y a toutes les associations de France et de Navarre qui sont regroupées ici, et forcément on collabore Alors, pas sur le groupe Facebook en lui-même, puisque c'est un groupe d'entraide pour des dossiers, et spécifiquement pour des dossiers, mais ça se passe sur d'autres canaux de communication, tels que WhatsApp ou par le biais de correspondance mail, etc., où effectivement, toutes les associations se regroupent, échangent, discutent et tentent de promouvoir la résidence alternée. Et notamment, on y reviendra tout à l'heure peut-être, mais avec la PPL 819.
Ah oui, on va y revenir tout à l'heure, obligatoirement. Et bien maintenant, pour parler des aspects juridiques et sociaux, quels sont selon toi les principaux obstacles juridiques que rencontrent les pairs séparés souhaitant une résidence alternée?
Alors, les principaux obstacles juridiques, moi, c'est très difficile pour moi d'y répondre parce que ce ne sont pas forcément des obstacles juridiques. Qui pose problème. Moi, je pense que il y a un problème sociétal qui fait que les pères sont regardés comme étant des violents violeurs, pour résumer, et que forcément l'homme ne peut être qu'une personne violente, ne peut pas s'occuper des enfants parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est d'être à l'extérieur, de travailler, et comme il a toujours travaillé, il s'est jamais occupé des enfants. Donc c'est vraiment un regard de la société, et je crois que ce regard-là, il impacte aussi le regard de la justice, et je trouve que aujourd'hui la justice a un regard un peu archaïque et devrait ouvrir ses yeux sur ce que sont les pères aujourd'hui, qui ne sont plus les pères des années 40, qui ne sont plus ceux des années 60, mais ce sont des gens qui sont investis au quotidien, puisque la société fait que voilà, il y a nécessité que les deux parents soient présents, que les deux parents soient investis pour les enfants. Et lorsque l'un des deux parents, et notamment le père, puisque c'est le père qui est le plus impacté par les décisions de justice en sa défaveur, quand le père donc est absent, et ben on se rend compte que dans la majeure partie des cas, dans une grosse partie des cas, ben, les enfants sont impactés négativement et se retrouvent sans figure d'autorité. Voilà, même si la mère est en capacité d'avoir cette figure d'autorité, mais le père est beaucoup plus présent et pesant en termes d'autorité et de figure d'autorité.
Comment juges-tu le fonctionnement des procédures de médiation familiale actuelles?
Alors, les procédures de médiation familiale, pour en avoir subi, je dis bien subi parce que je trouve qu'elles, quelque part, elles n'ont que très peu d'intérêt, puisqu'en fait, les gens, lorsqu'ils se séparent, la majeure partie du temps sont en conflit. S'il y a une médiation familiale, c'est pour essayer de résorber le conflit. Et lorsqu'on voit que les pères sont un peu bafoués dans leurs droits et que les mamans sont parties avec l'enfant et ont mis une distance ou un temps très long, la médiation, elle a vraiment beaucoup de mal à aboutir. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, puisque ça peut déboucher sur des choses positives. Moi, je n'en vois pas beaucoup. Quand je vois les rapports qui sont rendus, etc., je ne vois pas trop de résultats positifs à ces médiations, même si quelque part on devrait, avant de passer devant le JAF, pouvoir avoir ce type de médiation, ou même que ça nous soit imposé pour désenvenimer la situation et se retrouver avec des gens qui soient plus sereins lorsqu'ils se présentent devant le JAF.
Est-ce que tu estimes que le système judiciaire actuel est équitable envers les deux parents?
Alors c'est là où moi je me positionne un peu en retrait par rapport à ce que peut dire la majorité des gens. Je pense que le système actuel, tout est écrit pour qu'il soit équitable. Voilà, ça c'est une chose. Dans les textes de loi, tout est écrit pour qu'il soit équitable. La PPL 819 apportera un supplément à ces écritures. Mais pour moi, aujourd'hui, tout est écrit pour que le système et les décisions de justice soient équitables. La problématique, c'est que lorsqu'il y a une séparation, comme on peut le constater, c'est que la maman part avec l'enfant. Le père se retrouve patient, est un réactif et perd entre 3 et 6 mois dans ses actions. Il essaye de, tant bien que mal, de raccommoder les morceaux, d'essayer de retrouver le lien avec son enfant, etc., etc. Et on se retrouve avec une perte de 6 mois. L'enfant est chez la mère, il prend ses habitudes, on se retrouve devant le JAF, on passe avec une décision du JAF qui entérine les 6 mois qui sont positionnés pour ne pas perturber l'enfant, à le faire revenir chez le père, alors que la mère, elle, est partie sans se poser la question de savoir si ça allait perturber l'enfant. Pour moi, c'est assez difficile de dire que la justice n'est pas équitable. Moi, je pense qu'il y a une part de responsabilité de la justice, oui, parce qu'on se rend compte bien souvent qu'il y a des décisions de justice qui sont complètement ubuesques, mais les situations font que parfois on peut se poser la question de savoir si on avait pu réagir avant, si la décision de justice n'aurait pas été autrement.
Alors, quelle est ta position sur la proposition de loi, la PPL 819, qui vise à instaurer la résidence alternée par défaut ?
Alors, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Hein. L'instaurer par défaut, c'est pas l'imposer. Hein. On ne l'impose pas par défaut. Hein. C'est la première chose que devra regarder le JAF. C'est ce qu'on demande avant de s'attacher à savoir si ça serait une résidence chez l'un des deux parents. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, il faut que les conditions soient requises. C'est une bonne chose, mais il y a des contraintes. Et de ces contraintes-là, ben, par exemple, peut-être qu'effectivement une médiation familiale permettrait de lever ces contraintes. Donc voilà, sur la question précédente, on parlait de cette médiation. Je pense que ça serait une solution pour pouvoir lever justement toutes ces contraintes et de faire prendre conscience aux parents que la résidence alternée est la meilleure solution pour l'enfant, puisqu'il pourra se développer aussi bien en temps avec son père qu'avec sa mère, avoir une figure d'attachement qui ne soit pas unique, mais avoir ces deux figures d'attachement, donc le père et la mère, hein, malgré ce que peuvent dire toute la partie des féministes extrémistes, et j'emploie vraiment le mot extrémiste, en disant que seule la mère peut être la figure d'attachement. Non, la WAM francophone, par le biais de Sylvain Missonnier, a quand même défini que les enfants, dès le plus jeune âge, pouvaient avoir des figures d'attachement multiples et que ça favorisait la croissance de l'enfant. Donc, le fait d'avoir une figure d'attachement unique en faisant une résidence exclusive chez l'un des deux parents est pour moi une gageure, et cette résidence alternée sera aussi bien bénéfique pour l'enfant que pour les parents.
Elle peut aussi permettre de contribuer à réduire les conflits entre les parents séparés, non ?
Tout à fait. C'est un des points importants, de pouvoir réduire les conflits. Après, il faut quand même que les parents s'entendent à minima, puissent échanger, puissent se passer des informations. Alors, on n'est pas obligé de s'entendre et puis faire la fête tous les soirs ensemble, mais pouvoir discuter. Sur des choses essentielles sur l'enfant et avoir cette rancœur liée à la séparation qui soit atténuée, parce que s'il y a toujours cette rancœur, il peut y avoir des difficultés, d'où la médiation, d'où peut-être aussi une nécessité de se faire suivre par un professionnel de santé, un psychologue, un psychanalyste pour passer les difficultés.
Est-ce que tu observes une évolution des mentalités autour du rôle du père dans l'éducation ?
Depuis plusieurs années, oui, on voit que que les pères sont plus présents, on voit qu'ils sont investis. Après, il faut regarder par rapport peut-être au niveau social. Il y a peut-être des différences sociales qui font que dans certains milieux, le père il n'est peut-être pas autant investi que dans d'autres milieux. Mais globalement, oui, les pères sont beaucoup plus investis qu'ils ne l'étaient, mais ils ne l'étaient pas avant parce que la charge salariale lui revenait entièrement. Voilà, donc il passait 8 heures par jour à aller travailler pendant que la maman était à s'occuper de l'enfant. Donc ça, c'était... Après, c'est quelque part, c'est un peu biologique. Hein, la maman s'occupe de l'enfant. La société, aujourd'hui, fait que les femmes ont accès à l'emploi, ont accès à tout ce que les hommes ont, et c'est fort heureux. Mais l'aspect biologique fait que ça restera toujours la maman qui portera l'enfant, et jamais le père, sauf à changer la nature des choses. Donc forcément, la maman... à cette contrainte de porter l'enfant, de s'occuper de l'enfant. Elle a un lien, puisqu'elle est en avance de 9 mois, puisqu'elle ne peut pas porter l'enfant pendant 9 mois. Elle est parent avant même que le père devienne parent. Le père devient un parent lorsque l'enfant naît, alors que la mère, elle, a déjà cette fonction-là dès les premiers mois de la grossesse.
Bon, on est quand même responsable aussi de l'enfant quand il est dans son ventre, mais c'est sûr qu'il y a un lien privilégié du fait qu'il soit à l'intérieur.
On ne vit pas pareil.
Comment travailles-tu à sensibiliser le public, les élus, les institutions à tous ces enjeux ?
Alors moi personnellement, je m'attarde à repasser les informations que mes collègues font sur les différents canaux de communication. On est en lien ensemble. Moi, je suis plutôt investi dans la partie terrain, à aider les gens sur le terrain. C'est une partie qui est un peu, on va dire, invisible par rapport à ce que font mes collègues qui s'occupent, on va dire, du lobbying de la PPL. Je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment un travail de tous les jours, de tout instant. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et on ne peut que leur tirer notre chapeau et les féliciter de leurs actions. Moi, je suis plutôt à repartager leurs idées. Je suis souvent consulté pour des éléments, donc je leur donne mon avis. Ils en discutent entre eux et ils refont leur publication et leur amener d'informations. Mais moi, je suis plus sur le terrain auprès des gens en difficulté pour leur faire passer le cap et leur donner les bonnes indications.
Et quels sont les projets à venir pour le groupe Facebook Papa en colère entraide?
Pour l'instant, on reste sous la forme que l'on est. On essaie de récupérer les membres qui sont intéressés pour venir et avoir les informations que l'on peut distiller. Pour l'instant, il n'est pas dit que nous ne passions pas en tant qu'association, mais c'est une association supplémentaire. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Voilà, on veut pas non plus porter le phare sur nous, alors qu'il y a d'autres associations qui sont comme Jamais sans Papa, qui sont très défendent les enfants, qui sont très très en avant. Je trouve que multiplier les associations n'est pas forcément d'un intérêt primordial. Donc, pour l'instant, je pense que le groupe va rester comme ça. On essaie de le faire grandir pour distiller le maximum d'informations, le maximum d'aide, mais je pense que ça restera un groupe privé pour mettre les gens en sécurité lorsqu'ils racontent leurs histoires et sur les éléments qu'on a à transmettre en termes d'informations.
Comment imagines-tu l'évolution des droits parentaux dans les années à venir ?
J'ai un peu de mal à me projeter, sincèrement. Je sais pas du tout. J'ai un peu de mal à me projeter sur l'évolution. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on à la limite, on aurait presque pu quelque part déjudiciariser les séparations. Hein. Je me rappelle de propos de Stéphane Ditchef, qui était le président du FMCP à l'époque, paix à son âme puisqu'il est décédé maintenant, mais qui disait on se marie à l'église, mais on n'a pas besoin de justice pour se marier. Par contre, pour divorcer ou se séparer, on est obligé de passer devant un juge. Donc il se posait lui-même la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas bon de déjudiciariser les séparations. Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas d'avis. Je me suis pas posé sur ce type de question, mais ça pourrait être une solution. Mais on se retrouverait toujours avec une situation avec l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Et malheureusement, quand il y a des enfants, on peut pas les couper en deux. Hein. Ce sont des êtres à part entière qui ont leurs deux parents et qui eux ne font pas le choix d'aimer soit l'un soit l'autre, hein. Ils aiment leurs deux parents, même si parfois il y a l'aliénation parentale, mais
est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'aliénation parentale?
Alors l'aliénation parentale, c'est un terme un peu fourre-tout. Moi j'ai plutôt envie de dire que c'est une manipulation un peu comme une secte, hein, qui dirait que tous les membres qui sont en dehors de cette secte sont des êtres malfaisants. Donc quand il y a un des deux parents qui a la garde exclusive de l'enfant, qui a une rancœur contre l'autre parent, il va dire que le parent non gardien est le pire des parents, et à force de rabâcher ça, l'enfant lui le prend pour argent comptant. Donc il n'est pas en capacité d'avoir ce recul que peuvent avoir les adultes, et le fait de la distance aussi, l'éloignement qu'il peut y avoir avec le parent non gardien, l'enfant peut se sentir éventuellement exclu par l'autre parent. Donc en fait, il peut être amené à le détester. Voilà, c'est une des choses. Ou alors il se rend compte que le parent non gardien est la personne aimante, et pour se faire apprécier du parent qui est lui gardien et qui est la personne la moins aimante, eh ben, il va dénigrer le parent non gardien. Il y a plein de cas. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment un syndrome comme on pourrait l'entendre, parce que c'est un terme très décrié. Mais ce sont des situations qui se rapprochent plus à des, voilà, comme moi je dirais une secte. Voilà, on est dans une secte, on a un gourou qui est l'un des parents, et le gourou nous fait passer des informations en nous disant, bah voilà, tout ce qui est en dehors de la, de nos éléments, sont néfastes au développement. Bon, voilà, c'est ce que dit un peu Lacan, hein, quand il parle de la dyade mise en place par par les mères au moment de la naissance. Donc voilà, les mères empêchent toute interaction avec l'extérieur. On garde l'enfant auprès de soi et tout ce qui gravite autour, il faut l'exclure parce que ça vient couper le lien entre la mère et l'enfant. Bon, ça c'est en psychanalyse, Lacan le développe assez bien. Et voilà, c'est un peu en lien avec tout ça. Voilà, c'est assez vaste comme système.
Et bien pour terminer, quel message souhaiterais-tu faire passer aux pères qui nous écoutent et qui traverse actuellement ce genre de période difficile?
Il ne faut pas perdre de temps, ça c'est une certitude. Lorsqu'on démarre notre séparation, la séparation est faite, il ne faut pas perdre de temps, il faut tout de suite saisir la justice, enclencher la justice et faire valoir ses droits. Avant la séparation, moi je dirais, si on est un parent équilibré, on garde l'enfant avec soi, la maman veut s'en aller, moi je parle bien des mamans et des papas, hein. Puisque les mamans s'en vont généralement avec l'enfant, ben moi je dis au papa, gardez l'enfant, saisissez la justice, faites en sorte que la maman puisse garder un lien avec l'enfant, saisissez la justice et faites valoir vos droits à la résidence alternée. Vous verrez que ça simplifiera la situation, ça simplifiera la relation avec votre ex-conjoint. Et puis, lorsque vous êtes devant la justice, montrez que vous êtes un parent, montrez que vous avez mis en place des choses pour l'enfant, montrez que vous êtes le parent qui est en capacité, qui est capable d'élever son enfant pour que la justice ait un regard sur vous, pas comme un parent qui sera un parent d'un week-end sur deux, mais le parent qui sera présent au quotidien en termes de développement de l'enfant. Donc pour ça, préparez votre projet de vie. Il y a des dossiers qu'on a montés qui sont assez longs à mettre en place. Mettez-le en place, c'est la clé de voûte de votre dossier. C'est le couteau suisse. Il permet dans toute situation d'avoir un regard différent et de montrer à la justice que vous êtes un parent en capacité. Bien souvent, j'entends dire « Oui, mais les mamans, lorsqu'elles s'en vont avec l'enfant, elles ne montrent pas ce projet de vie. Libre à elles, elles font ce qu'elles veulent. » Elles font ce qu'elles veulent. Moi, c'est leur problème à elles. Pour moi, un parent qui ne monte pas son projet de vie, c'est pas un parent responsable. C'est pas parce que on est parent et qu'on a un enfant qu'on est en capacité parentale. On peut être parent sans avoir la capacité parentale. Montrez que vous êtes en capacité parentale. Même si l'enfant est parti avec la maman depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, montrez que vous êtes en capacité parentale. C'est la clé de voûte de votre dossier. Si la justice voit ça, la justice vous accordera ce que vous souhaitez.
Bon, bah merci pour ce mot de la fin optimiste et qui fait plaisir. Merci beaucoup, Fabrice.
Merci et bon courage à tous. À bientôt.
Eh bien, à l'instant, c'était un témoignage fort porté par une volonté d'agir et de rassembler de Fabrice Joudiou. Pour en savoir plus ou rejoindre la communauté, rendez-vous sur la page Papa en colère Entraide sur Facebook.